Retrouvons-nous demain par Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre notre chronique par rapport au thème que j'ai annoncé la semaine dernière. Là, je vais faire une petite digression, j'avais annoncé de parler d'architecture et on va continuer, si vous le voulez bien, sur la thématique qui avait été abordée dans la dernière chronique, c'est-à-dire on avait parlé de mondialisation et des effets de la mondialisation sur nos territoires. Alors, je vous avais parlé d'un article qui avait été publié dans Libération par un monsieur Jean Laterrasse, qui était, je crois, professeur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, et j'étais assez scandalisé, oui, on peut dire le mot, par la collection d'inexactitudes et qu'un professeur et l'université puissent faire passer de l'idéologie à la place de la réalité des faits. Donc, quand on parle effectivement de données esthétiques ou politiques sur les hommes, la gouvernance, il est non seulement légitime d'avoir différentes opinions et de les confronter, mais nous ne sommes pas dans l'objectivité de la réalité. Et quand on parle de territoire, par exemple, et de démographie, ce n'est pas sujet, comme j'ai pu vous le dire, à contestation. Et les chiffres, aujourd'hui, parlent et on ne peut pas les déformer. Alors, Libération, alors évidemment, ce n'était absolument pas une critique contre ce quotidien tout à fait intéressant. Et il y a eu, c'était simplement dans le cadre du débat d'idées, et le lendemain d'ailleurs, de ce mardi 10 décembre, donc le mercredi 11 décembre, paraissait un article d'un géographe qui s'appelle Pierre-Marie Georges. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'il s'agit effectivement là d'un, là aussi d'un, je pense, si ce n'est un universitaire, en tout cas un chercheur, et qui dit exactement le contraire avec un article qui est intitulé « Ruralité, l'État n'a pas pris la mesure du retournement démographique ». Donc, vous savez, c'est un thème que j'ai abordé plusieurs fois lors de ces dernières chroniques. Et si vous me permettez, je vais vous lire une partie de cet article qui dit, à la réponse « Vivre à la campagne, c'est devenu populaire », l'attractivité du monde rural est rendue de plus en plus visible avec des sondages qui montrent l'appétence de la population pour la vie à la campagne et des politiques publiques qui cessent d'ignorer cette partie de la France. Je pense notamment à l'agenda rural publié par le gouvernement en septembre, qui compte 200 propositions et ambitionne de faire des campagnes des territoires d'avenir. L'enjeu est de savoir quels services on trouve dans les zones rurales, comment on en recrée, alors que l'appareil d'État a souvent basé sur ses politiques sur l'idée d'exode rural. D'ailleurs, rien que ce terme d'exode, avec cette référence biblique, est très symbolique. Alors, il continue en disant ce que je vous avais déjà dit, et ça me rassure sur mes chiffres. Dès 1975, le monde rural a cessé de perdre les habitants. Cela a commencé avec la croissance des communes rurales à proximité des villes, ce qu'on appelle la périurbanisation, puis le mouvement a gagné la quasi-totalité des espaces ruraux. Il s'agissait au départ surtout de résidences secondaires, on assiste depuis plus récemment à l'arrivée d'actifs dans ces territoires. Alors, là où je ne suis pas d'accord, parce qu'il dit un tiers de la population française vit en zone rurale, alors c'est bien sûr, le chiffre est sous-estimé, c'est bien plus que cela, et on a pu parler de cela, et je reprendrai ce débat par rapport à ça. Alors, Dans ce texte, qui est assez court, il finit en disant que justement ce refus de voir cette réalité a comme conséquence immédiate, une grande partie donc de la population qui se sent incomprise et notamment renvoyée à cette France périphérique dont je parlerai à la suite de l'émission. Alors, il conclut en disant « Ces attentes insatisfaites sont aussi à l'origine du mouvement social protéiforme des Gilets jaunes en raison de ce sentiment d'abandon et d'inégalité d'accès aux services ». Alors, ce que je pense, c'est que, au-delà du fait réel de ce problème économique, de service, de phénomène social, il y a aussi quelque chose qui est moins traduisible en termes objectifs. C'est ce sentiment, justement, d'être des citoyens de seconde zone par rapport à la ville. Alors là, il faut rappeler, on en a la réalité de ces villes, et pour vous montrer le discours dominant, parce que j'estime que celui que je viens de vous lire sur la ruralité est tout à fait marginal, et c'est pas du tout celui que l'on entend. En tout cas, c'est pas celui celui des gouvernementales, celui du politique d'une manière générale, et évidemment la reprise par les médias. Alors, il y a c'est une déclaration qui illustre évidemment le propos contraire, qui est paru dans plusieurs journaux, et notamment dans le Journal du Dimanche, sous le titre « Urgence climatique et l'appel des villes ». Alors, je ne vais pas faire un débat sur le climat, je vais vous lire la partie qui concerne les villes. Alors, cet article a été publié par Madame Hidalgo, et qui est la maire du parti, et Eric Garcetti, qui est le maire de Los Angeles. Vous voyez, il y a une union à travers les continents entre la Seine et les bords du Pacifique. Donc, Madame Hidalgo et ce monsieur de Los Angeles nous disent que nous éprouvons déjà durement les conséquences d'un climat qui change. Ici, il faut faire face aux canicules, aux inondations, ailleurs aux incendies destructeurs. Vous voyez l'introduction apocalyptique. Nos villes rassemblent déjà la moitié de la population mondiale. Alors, c'est là où le bât blesse, parce qu'effectivement, nous allons parler de cela à l'instant. Bientôt, elles regrouperont les trois quarts des habitants de la planète. Or, les villes abritent la majeure partie de la production économique mondiale, mais elles sont aussi responsables de la plus grosse part des émissions carbone. Alors, on comprend à la fin de l'article, et je ne vais pas vous lire la totalité, les chefs d'État et de gouvernement ne doivent pas se contenter de reconnaître le rôle moteur des villes, mais leur octroyer plus de moyens pour aller encore plus loin, notamment en leur donnant voix au chapitre sur les décisions liées à des mécanismes de financement et d'allocation du crédit carbone. On voit très bien le pourquoi de l'introduction catastrophique, parce qu'effectivement, et bénéficier ainsi d'un accès simplifié aux fonds qui permettent d'accélérer la transition vers un avenir plus respectueux de la planète. Et on parle effectivement des 100 milliards de dollars annuels promis au Fonds d'adaptation des Nations Unies, effectivement, pour que les villes puissent se partager cela. Donc, on est en réponse avec l'article précédent qui, effectivement, accuse les villes de prendre une place importante à la fois dans l'économie, dans la prétention de la domination et de l'intérêt économique, et aussi dans une démographie, évidemment, qui est totalement fictive. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, je pense, d'une certaine gravité. On va renvoyer, par exemple, à la ville de Paris. La ville de Paris, eh bien, ce qui est Paris, c'est 2 millions d'habitants. Donc, il y a 1 200 000 électeurs pour élire le maire de Paris, ce qui est quand même pas très important. Alors après, on va vous expliquer la zone urbaine, etc. Mais restons-en au fait, il s'agit de Paris, et Paris, c'est 1 200 000 habitants. Alors, Par exemple, on a Paris, le problème est parfaitement délimité entre la ville réelle et la ville politique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Toulouse ou à Montpellier, où on a une construction récente qui est la construction de la métropole. Alors, la métropole, c'est un mot qui a surgi tout d'un coup, puisqu'à maintenant, c'était la métropole, ça s'opposait. Dans la France coloniale, il y avait la métropole ou alors même les départements d'outre-mer. Et donc c'était l'Hexagone avec la Corse. Je pense c'était que l'Hexagone et les autres départements ou les anciennes colonies et territoires extérieurs, ils allaient en métropole et on avait cette dissociation. Alors, on ne voit pas très bien pourquoi ce mot de métropole maintenant est appliqué dans nos villes. Alors, on va parler de Toulouse et de Montpellier. La métropole, c'est 34 communes à Toulouse et 31 à Montpellier, si je ne m'abuse. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ce découpage est un découpage assez curieux parce que, par exemple, à Toulouse, ça comprend effectivement toute la zone ouest économique autour d'Airbus et toutes ces communes importantes là autour de Colomiers, Saint-Martin-du-Touche, Aussonne, etc. Mais par contre, le sud toulousain qui comprend à la fois les grandes écoles scientifiques et aussi une grande partie avec d'entreprises qui sont du secteur robotique, espace, le CNES, l'INRA. Enfin, il y a tout un réservoir très important de recherche et d'économie qui est autour du Sicoval. Et le Sicoval ne fait pas partie de la métropole. À Montpellier, là aussi, il y a un dessin d'une métropole très baroque dans son dessin. Par exemple, Palavas ne fait pas partie de la métropole de Montpellier. Alors, il n'y a pas de raison géographique, historique. Il y a simplement, on peut dire, une guérilla entre Georges Frêche et le maire de Palavas, Jean-Jean. Je crois que l'un, le défunt Georges Frêche, accusait son ancien élève Jean-Jean de turpitude et réciproquement. Tout ça me paraît quand même pas très sérieux sur un plan de la réalité démographique et économique. Alors, la relation aussi... On parle de population, mais il faut aussi parler de géographie. Et quand on assimile Toulouse uniquement à son centre-ville, on a d'un côté une ville qui est particulièrement étendue, 118 km², et un centre-ville qui fait en gros 2 km par 1 km, c'est-à-dire 2 km². Donc vous voyez la proportion entre 118 km² et 2 km². Et au niveau de population, il ne faut pas croire aussi que la moitié de la population habite dans le centre historique, puisqu'en fait, dans le centre historique, il n'y a que 30 000, alors, dans la définition du centre historique, à l'intérieur des boulevards. Et si on l'élargit au canal, avec... qu'on passe qu'à faire Élie, Saint-Aubin, les ponts jumeaux... on obtient 68 000 habitants. Donc, ce qui est par rapport à une ville de 450 000 habitants, vous voyez, ridiculement peu. Et évidemment, par rapport à l'agglomération qui, suivant les calculs, peut faire de 800 000 à 1 million d'habitants, on est évidemment bien loin de ce rapport-là entre les 38 000 habitants et les 800 000 habitants. Alors, c'est très curieux de voir justement cette vision que des villes qui sont aussi les facteurs économiques les plus importants. J'en ai parlé précédemment en disant que les villes étaient pour l'essentiel un monde médiatisé, un monde touristique, festif, d'une population qui n'était, contrairement à ce qui est dit, pas du tout mondialisée, et que dans la réalité de notre pays, nous n'avons pas ces villes qui tirent l'économie, mais plutôt l'économie qui est tirée par les territoires où sont implantées les forces actives de la nation. On va marquer une petite pause musicale, si vous le voulez bien, et je vais reprendre en parlant de la France périphérique, ce qui est un sujet dont on parle beaucoup. Nous allons écouter le concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Oui, alors je vous parlais de la France périphérique, qui est une thématique qui est partagée par toutes les tendances politiques de notre pays. Donc c'est un ouvrage qui avait été écrit par, je pense, il se dit géographe, mais je pense qu'il est plutôt un polémiste et un commentateur politique, qui s'appelle Christophe Guillouis, et qui d'ailleurs écrivait dans un papier dans Le Figaro où il faisait l'analyse de l'élection de Boris Johnson et de l'exemple britannique avec le Brexit, où il reprend sa thèse de la France périphérique, c'est-à-dire il oppose les grandes villes avec ce qu'il appelle les périphéries. Donc les périphéries sont déclassées, les périphéries sont pauvres et les grandes villes sont riches. Donc il explique cela. Donc c'est repris par, je vous dis, la classe politique en entier, de Marine Le Pen à l'extrême gauche. Et déjà, c'est une chose qui me dérange parce que l'unanimité, c'est toujours problématique. C'est qu'il y a quelque chose qui empêche le débat. Et je pense que cette satisfaction française traduit, je pense, un aveuglement et une myopie par rapport à la réalité, d'ailleurs, celle que je vous en ai parlé à l'instant, avec l'article de Pierre-Marie Georges qui est paru dans Libération. Alors, dans notre vision française, et nous avons tendance, c'est le chauvinisme national a toujours tendance à extrapoler la situation française au monde entier, où les villes sont les lieux de l'intelligence. L'autre jour, dans un débat à France Culture, c'était la thématique, c'est l'intelligence est dans les villes. Donc, il est évident que quand on n'habite pas dans les villes, et dans le cas de la France, c'est surtout Paris, et bien sûr, c'est qu'on n'est pas très intelligent. Donc, il y a une France qui se sent rejetée, à juste titre, par rapport à ce discours qui, après, se traduit dans des subventions, dans des implantations politiques. Alors, par exemple, il est dit, oui, mais les universités sont dans les villes, comme s'il s'agissait d'une évidence et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Alors, on va rappeler que les premières universités du monde sont nord-américaines, Stanford, Harvard, MIT, Princeton, et que ces universités sont très souvent sur des campus, et le campus veut dire champ, et on est dans les champs. Alors ce n'est pas du tout un hasard ou une fantaisie, simplement c'était une volonté politique qui a été faite on peut dire la création des États-Unis par le président Jefferson, qui était un homme qui avait vu, qui avait visité l'Europe, la France, et qui avait aussi, il était architecte, pasteur, un homme très instruit, qui avait une vision de l'urbanisation de son pays et qui se positionnait d'une manière négative contre les villes, en disant que les villes, c'était aussi des lieux de l'entassement, des lieux de la promiscuité, des lieux du vice, de la perversion. On est quand même dans une vision ancienne d'un manichéisme, mais qui est à l'envers de la vision que l'on a aujourd'hui, où effectivement on ne prend que une sorte de bon côté des choses. Alors, pour revenir à ces universités, par exemple Stanford, qui est en Californie, la ville la plus proche, c'est Palo Alto. La population de Palo Alto, je pense qu'elle est égale à la population de l'université. Mais vous avez aussi, par exemple, New Haven, à laquelle il y a l'université de Yale, qui est une des plus anciennes universités. Et quand on va à Yale, on voit le modèle britannique d'Oxford et de Cambridge, qui sont des villes universitaires, comme d'ailleurs Heidelberg en Allemagne. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Angleterre. Et il y a aussi, par exemple, en Espagne, Alcalá de Linares, qui est une ville universitaire assez loin de Madrid. Et après, on a toute une série de villes universitaires comme Ann Arbor par rapport à Détroit, l'Université du Michigan. Et on peut dire que ce maillage champêtre a été voulu par le président Jefferson et il s'est développé comme cela. Alors, il en a été de même aux États-Unis pour la politique, c'est-à-dire qu'en France, il y a une tradition où les villes sont les lieux de où sont les parlements, les établissements du pouvoir. Mais dans les États-Unis, aux États-Unis, il y a une dissociation. Par exemple, New York n'est pas la capitale de l'État de New York, c'est Albany. Mais il en est de même à peu près pour tous les États. Ce n'est pas Chicago. Enfin, par exemple, ce n'est pas Détroit, c'est Lansing. C'est à peu près partout aux États-Unis. Et d'ailleurs, la capitale de Washington est une capitale administrative. Et ce n'est pas la capitale économique du pays. Ça a certains avantages dans la mesure où ce que nous vivons aujourd'hui avec le blocage des grèves, ou les manifestations des gilets jaunes et les violences urbaines, ces villes qui sont des villes administratives, évidemment, sont peu peuplées et n'ont pas justement à craindre ce type de manifestation parce que tout cela a été volontairement dissocié. Alors nous sommes hérités de notre histoire, mais ça n'a pas été planifié. C'est le hasard qui a voulu cela, le hasard. La sédimentation historique. Donc, une ville qui a un pays qui a été planifié comme les États-Unis, ce qui n'a pas été le cas de notre pays, beaucoup plus ancien. Et on pourrait regarder aussi les avantages d'une planification décentralisée et non plus celle de centralisation. Donc, le paradoxe, c'est que justement aujourd'hui, on peut dire, sur un modèle mondialisé, nous sommes de plus en plus éclatés. Et les villes, aujourd'hui, on en a parlé, l'économie s'est vidée des centres-villes et des villes la plupart du temps. Alors, il y a effectivement autour des villes, et je n'emploierai pas le mot périphérie, mais autour des villes, il peut y avoir des lieu très important de l'économie, mais aussi l'économie, elle est dispersée sur les territoires et on peut appliquer cela dans toute l'Europe. On a le même phénomène qui est de dispersion, mais effectivement qui est à l'envers de notre histoire. Donc il serait quand même temps que notre pays se rende compte de la réalité de ce qu'il est et de ne pas se penser comme il était avant le 19e siècle où les choses étaient justement dans ce feuilleté superposé entre le commerce, la politique, l'économie, l'université, le savoir et que aujourd'hui nous sommes dans un monde beaucoup plus équilibré d'ailleurs et il faudrait que les politiques publiques et notre sentiment de la société se mettent en accord avec la réalité de notre pays. Alors c'est le vœu que l'on pourrait formuler pour 2020, je ne me fais pas trop d'illusions sur le sujet, mais comme il y a les élections municipales qui arrivent, ce serait peut-être le moment de mettre ces sujets importants sur la table et de regarder justement la France que l'on appelle des territoires et cette France et des villes qu'en fin de compte, au final, la véritable périphérie n'est pas autour des villes, mais c'est les villes qui sont périphériques par rapport à notre France des territoires. Voilà, c'est la dernière émission de l'année 2019. Je vous souhaite de bonnes fêtes et nous nous retrouverons en 2020. Et bonnes fêtes à tous. c'était « Où vivrons-nous demain ?» Merci à Hugo qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à l'année prochaine !